Poursuivons la méditation sur la prière du Seigneur, le Notre Père, avec Jean-Paul II. Invocation, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tes péchés sont remis. Dans l'Évangile, nous lisons qu'à Capharnaüm, il se rassembla beaucoup de monde. Évangile de Marc 2:2. Dans la maison où Jésus habitait. Elle ne pouvait les contenir tous, tellement nombreux étaient ceux qui désiraient écouter la parole qu'il annonçait et voir ce qu'il faisait. Et voilà qu'au milieu de cette foule, Jésus fait une chose extrêmement significative. On vient de lui amener un paralytique. Mais comme ceux qui l'apportent ne peuvent le lui présenter en raison de la foule, ils pratiquent une ouverture dans le toit et font descendre ainsi le paralytique. Avant toute chose, Jésus dit à cet homme, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Évangile de Marc 2:5. À ce mot, un murmure s'élève parmi ceux qui avaient suivi le geste du Christ avec une certaine méfiance. Ce sont des scribes qui affirment, à juste titre, d'ailleurs, « Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Évangile de Marc 2:7. Ce n'est pas toutefois leur aversion à l'égard du Christ qui leur avait dicté cette objection. Comment celui-là peut-il parler ainsi? Il blasphème. Évangile de Marc 2:7. Jésus, en un certain sens, lit dans leurs pensées et donne une réponse. Quel est le plus facile de dire au paralytique, tes péchés te sont remis? Ou de lui dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche » Évangile de Marc 2:9. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre le péché sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. » Tout se passe comme Jésus l'a ordonné. Jésus guérit un incurable. Il fait un miracle. Il donne ainsi la preuve qu'il a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés. Et le scribe, comme ils avaient affirmé que Dieu seul a ce pouvoir, devrait maintenant tirer la conclusion de ce qu'eux-mêmes avaient verbalement soutenu. Jésus réaffirme la présence de Dieu parmi la foule. Jésus réaffirme le pouvoir divin de remettre les péchés, pouvoir qui lui est propre. Le pardon est une grâce. Le Christ nous a appris à pardonner. Il a souvent et de nombreuses manières parlé du pardon. Quand Pierre lui demanda combien de fois il devrait pardonner à son prochain, irais-je jusqu'à 7 fois? Jésus répondit qu'il aurait à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Évangile de Matthieu 18:21. En pratique, cela veut dire toujours 70 par 7 est un nombre symbolique signifiant moins une quantité déterminée qu'une quantité incalculable infinie. En réponse à la demande au sujet de la manière de prier, Jésus prononça ce magnifique parole adressée au Père, « Notre Père qui es aux cieux ». Et parmi les requêtes qui composent cette prière, la 5e parle du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonner à ceux qui se sont rendus coupables envers nous, c'est-à-dire à nos débiteurs. Et le Christ a confirmé lui-même sur la croix la vérité de ses paroles, qu'en s'adressant à son Père, il supplia, « Pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évangile de Luc 23:34. Pardon, c'est la parole que prononcent les lèvres d'un homme à qui l'on a fait du mal. Mieux, c'est la parole du cœur humain. Par cette parole du cœur, chacun de nous s'efforce de franchir la frontière de l'intimité qui peut séparer de l'autre et cherche à recomposer l'espace intérieur d'entente, de contact, de lien. Par la parole de l'Évangile et surtout par son témoignage du sang versé, le Christ Jésus nous a enseigné que cet espace ne s'ouvre pas seulement devant l'autre homme, mais aussi et en même temps devant Dieu lui-même. Le Père, qui est Dieu du pardon et de la miséricorde, désire agir précisément dans cet espace du pardon humain, désire de pardonner ceux qui sont capables de se pardonner l'un à l'autre, qui tâchent de mettre en pratique le « pardonne-nous comme nous pardonnons ». Le pardon est une grâce à laquelle il faut penser avec humilité, avec une profonde gratitude. Il est un mystère du cœur humain sur lequel il n'est pas facile de s'étendre. M'est revenu en mémoire ce passage du livre de la Genèse. Abel était pasteur du petit bétail et Caïn cultivateur du sol. Il advint au bout d'un certain temps que Caïn apporta des fruits du sol en oblation au Seigneur. Abel de son côté apporta le premier-né de son troupeau avec leur graisse. Or l'oblation d'Abel fut agréable au Seigneur, mais non celle de Caïn. Caïn en éprouva une grande colère, et son visage fut abattu. Alors le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi éprouves-tu de la colère, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Que si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte. Son élan est vers toi, mais toi domine-le. » Caïn dit à Abel son frère, « Allons au champ. » Et comme ils étaient au champ, Caïn se leva contre Abel son frère, et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il dit, « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère ?» Il dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi. » Livre de Genèse 4, 2 à 10. À notre époque, où ce péché contre la vie de l'homme est devenu de nouveau et de manière nouvelle menaçant, et tandis que de nombreux hommes innocents périssent par la main d'autres hommes, la description biblique de ce qui s'est passé entre Caïn et Abel devient particulièrement éloquente. Encore plus complète, plus bouleversante que le commandement « Tu ne tueras pas » lui-même. Ce commandement fait partie du décalogue que Moïse reçut de Dieu et qui est également inscrit dans le cœur de l'homme comme loi intérieure d'ordre moral pour tous les comportements humains. Ne nous parle-t-elle pas encore davantage de la défense formelle de tuer cette question que Dieu adressa à Caïn? Où est ton frère? Et à la réponse évasive de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Fait suite à l'autre question divine. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi. Le Christ nous a appris à pardonner. Le pardon est également indispensable pour que Dieu puisse poser à la conscience humaine des questions auxquelles il attend une réponse conforme à toute sa vérité intérieure. À notre époque où tant d'hommes innocents périssent par la main d'autres hommes, il semble que s'impose tout spécialement le besoin de s'approcher de chacun de ceux qui tuent, de les approcher, le pardon dans le cœur, et de leur poser la question que Dieu, Créateur et Seigneur de la vie humaine, posa au premier homme qui avait attenté à la vie de son frère et la lui avait ôté, avait enlevé ce qui est propriété seulement du Créateur, du Seigneur de la vie. Le Christ nous a enseigné le pardon. À Pierre, il a appris à pardonner jusqu'à 70 fois cette fois. Dieu lui-même pardonne quand, à la demande adressée à sa conscience et à son cœur, l'homme traduit dans sa réponse toute la vérité intérieure de la conversion. Laissant à Dieu même le jugement et la sentence à sa dimension définitive, ne cessons de demander, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Réconciliés avec Dieu par le Christ. Le thème de la réconciliation et de la pénitence dans la mission de l'Église nous invite à nous engager sur un chemin exigeant avec le Christ. C'est le chemin de l'Évangile, car la prédication de Jésus commence justement par l'appel qui dit « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » Évangile de Marc 1, 15, et culmine sur la croix quand Jésus prononce sa parole de pardon « Père, pardonne-leur » Évangile de Luc 23, 34. Le voilà donc le chemin de l'Évangile sur lequel nous rencontrons la béatitude des miséricordieux, l'appel à l'amour des ennemis, l'urgence de la réconciliation. Va d'abord te réconcilier avec ton frère Évangile de Matthieu 5, 24. La prière de réconciliation. Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Évangile de Matthieu 6, 12. Et tout ce signe de puissance à travers lequel le Christ, en guérissant et en remettant le péché, opère la guérison de l'homme tout entier. Vous le savez bien, ce chemin de l'Évangile, ce chemin de réconciliation, ne s'arrête pas au fait historique de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Seigneur. C'est Dieu qui réconcilie avec lui par le Christ. Deuxième lettre aux Corinthiens 5, 18. Et c'est toujours Dieu, riche en miséricorde, qui nous offre les dons de la réconciliation, lorsque, par l'intermédiaire de son Fils, il confie à l'Église le ministère de la réconciliation. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous retiendrez les péchés, ils lui seront retenus. Évangile de Jean 20, 22. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes les comptes de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Deuxième lettre aux Corinthiens 5, 18. C'est pourquoi les ministères de la réconciliation de l'homme avec Dieu constituent la mission fondamentale de l'Église. Accomplie une fois pour toutes par initiative divine, la réconciliation avec le monde en Jésus-Christ demande d'être sans cesse actualisée. L'humanité réconciliée avec Dieu a toujours besoin encore et encore du ministère de la réconciliation. Si ce ministère de la réconciliation est bien compris dans toutes ses dimensions et dans tous ses éléments, il comporte une réponse de l'homme, réponse que l'Évangile nomme conversion et pénitence. De fait, le don de la miséricorde a été confié à l'Église pour en faire bénéficier tous les hommes et tout l'homme. C'est là, en effet, au fond du cœur de chacun, que prennent racine les manques de confiance, les inimitiés qui opposent les nations au niveau de leurs intérêts collectifs. La construction de la paix commence quand nous entendons l'appel urgent du Christ nous dire « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Depuis si longtemps, nous dit Saint Bédée le Vénérable, que l'on répète cette exhortation, puisse-t-elle être une bonne fois entendue? Car les temps sont accomplis et le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, c'est-à-dire renoncez aux œuvres mortes et croyez dans le Dieu vivant. À quoi cela sert-il de croire sans les œuvres? Ce n'est pas grâce aux œuvres que nous sommes arrivés à la foi, mais c'est par la foi que l'on commence pour que suivent les œuvres. Seul le Christ peut donner à chacun un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est ainsi qu'il commence à extirper les péchés de nos cœurs. Il touche alors notre conscience à la racine exacte de notre déséquilibre fondamental, au plus profond de nous-mêmes, là où nous sommes écartelés entre la lumière et les ténèbres, divisés entre le bien et le mal, comme incapables de faire le bien que nous voudrions faire et d'éviter le mal que nous réprouvons. Le Christ nous guérit exactement là où nous sommes malades, de ce mal contagieux qui crée le déséquilibre du monde entier, l'égoïsme, l'envie, la volonté de puissance. Il faut donc insister sur cela, parce que c'est justement là que se trouve la clé de nombreux problèmes bien difficiles. La capacité d'accueillir le don de Dieu à travers une conversion sincère est le signe de la dignité de l'homme. En réalité, en assumant la responsabilité de ses propres fautes, l'homme atteste la valeur de sa liberté, blessé certes, mais régénéré par le Christ. Car si le péché et la faute n'étaient plus reconnus pour ce qu'ils sont aux yeux de Dieu, ce qu'il y a de plus humain dans l'homme serait alors mis en danger. « As-tu péché ?» nous demande Saint Jean Chrysostome. « Confesse alors à Dieu, j'ai péché. Avoue ton péché si tu veux qu'il te soit pardonné. Ce n'est pas difficile à faire. Il n'y faut pas de grands discours, et on ne te demande pas d'argent, rien de tout cela. Il faut reconnaître en toute bonne foi ses fautes et dire « j'ai péché, je regrette ». L'appel du Christ à la conversion est un appel à reprendre conscience de notre propre dignité. C'est une occasion de réconciliation au sens le plus large, au sein de la société et entre les peuples. L'homme a besoin de réconciliation. Par son péché, il a brisé l'amitié avec Dieu et s'est trouvé seul et désespéré parce que son destin ne saurait s'accomplir hors de cette amitié. Il aspire donc à la réconciliation tout en étant incapable de la réaliser de lui-même. En effet, il ne saurait à l'aide de ses seules forces purifier son cœur, se libérer du poids du péché, s'ouvrir à la chaleur vivifiante de l'amour de Dieu. L'heureuse annonce que nous apporte la foi est précisément ceci. Dans sa bonté, Dieu est venu au-devant de l'homme. Il a une fois pour toutes réalisé la réconciliation de l'humanité avec lui-même, pardonnant les fautes et créant dans le Christ un homme nouveau, pur et saint. Saint Paul souligne le caractère souverain de cette action divine, qu'en parlant de la nouvelle création, il déclare « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ » aux Corinthiens 5:18. Et il ajoute « Car c'est Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes. » C'est pourquoi, conscient de tenir de Dieu le ministère de la réconciliation, la porte conclut par l'exhortation passionnée « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Deuxième lettre aux Corinthiens 5:20. Dieu seul est le sauveur. La conviction que l'homme ne saurait se sauver par ses efforts humains et que tout le salut vient de Dieu, la révélation de l'Ancien Testament nous l'inculquait déjà. Le Seigneur disait à son peuple, « Il n'est pas d'autre Dieu en dehors de moi, Dieu juste et sauveur, il n'en est pas hormis de moi. » Livre de prophète Isaïe 45:21. En affirmant ceci, toutefois, Dieu assurait aussi qu'il n'abandonnerait jamais l'homme à son propre destin. Il le sauverait. Et en effet, celui qui s'était présenté comme Dieu sauveur manifesta par la venue du Christ Jésus sur la terre qu'il l'était réellement. Et même l'accomplissement a dépassé la promesse. Dans le Christ, en effet, le mystère du salut s'est révélé comme mystère de Dieu le Père qui offre son Fils en sacrifice pour la rédemption de l'humanité. Alors que le peuple juif attendait un Messie humain, le Fils de Dieu en personne est venu parmi les hommes, et en sa qualité de vrai Dieu et vrai homme, il a réalisé le rôle du Sauveur. C'est lui qui, par son sacrifice, a opéré la réconciliation des hommes avec Dieu. Nous ne saurions manquer d'admirer cette merveilleuse initiative du plan divin de salut. Le Fils incarné a dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection opéré parmi nous comme Dieu sauveur. Étant le Fils, il a accompli à la perfection l'œuvre que lui avait confiée le Père. Cette œuvre, il la considérait moins comme sienne que comme celle du Père. Elle était avant tout l'œuvre du Père, qui en avait eu l'initiative et qui continuait à la guider. Le Père a remis cette œuvre entre les mains de son Fils, mais il reste celui qui la domine et qui l'amène à son terme. Jésus reconnaît que c'est son Père qui a tracé la voie du sacrifice comme voie du salut. Il ne prétend pas nier la responsabilité des hommes dans sa condamnation à mort. Mais dans les drames qui se préparent, il discerne l'action souveraine du Père, qui, tout en respectant la liberté de l'homme, guide les événements selon un dessein supérieur. À Gethsémani, c'est la volonté du Père qu'il accepte. Et au moment de son arrestation, ordonnant à Pierre de remettre le glaive dans le fourreau, il fait connaître à Pierre la raison de sa docilité. « La coupe que m'avait donnée le Père, ne la boirai-je pas ?» Évangile de Jean 18:11. Toute explication des événements du calvaire par des causes simplement historiques serait insuffisante. Ce n'est pas à ceux qui ont condamné Jésus qu'est dû le sacrifice rédempteur, mais au Père qui a pris la décision d'accorder par cette voie le salut à l'humanité. Ce mystère ne cesse de nous surprendre, car les hommes qui écoutent la bonne nouvelle ne peuvent manquer de se demander pourquoi le Père a-t-il choisi le sacrifice comme moyen de libération de l'humanité? N'assume-t-il pas un aspect cruel en mandant son Fils au sacrifice? N'est-ce pas la manifestation d'une rigueur excessive? La réponse de la révélation est précise. Loin d'être un acte de cruauté ou de rigoureuse sévérité, le geste du Père qui offre le Fils en sacrifice est le plus haut sommet de l'amour. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Saint Jean, qui rapporte ces paroles dans son Évangile 3:16, les commente dans sa première épître. En ceci consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Le Père a voulu un sacrifice de réparation pour les fautes de l'humanité, mais il a payé lui-même le prix de ce sacrifice en donnant son Fils. Par ce don, il a montré dans quelle mesure il était notre Sauveur et jusqu'à quel point il aimait les hommes. Son geste est le geste définitif de l'amour. Voilà pourquoi le mystère pascal est le sommet de la révélation et la réalisation de la miséricorde de Dieu. N'oublions jamais que notre réconciliation a coûté un prix si élevé au Père éternel. Et comment ne pas le remercier pour cet amour qui, avec le salut, nous a apporté la paix et la joie. Aimez vos ennemis. Nous devons nous rappeler que, suivant la révélation biblique, le péché qui sépare l'homme de Dieu a pour inévitable effet collatéral de diviser les hommes. Quand l'hostilité creuse une distance entre l'homme et Dieu, elle entraîne aussi l'homme à se dresser contre ses semblables. Avec la tour de Babel, la Bible nous a mis sous les yeux une impressionnante image de cette perverse dynamique. Quand poussés par leur orgueil, les hommes décident d'élever une tour qui arrive à toucher le ciel, leur permettant de disposer d'une puissance capable de rivaliser avec celle de Dieu, ils finissent par expérimenter l'échec, la désunion qui s'établit entre eux à cause de la diversité des langues. Voir Genèse 11, 1 à 9. S'opposer à Dieu et vouloir se mesurer avec lui en refusant sa souveraineté signifie introduire dans les relations sociales d'irréductibles tensions explosives. Par contre, la réconciliation du pécheur avec Dieu suscite en lui une poussée vers la réconciliation avec ses frères. Saint Paul a souligné cette vérité en affirmant que les deux parties de l'humanité, les Juifs et les païens, avaient été dans le Christ réconciliés avec Dieu pour ne former qu'un seul corps, un seul homme nouveau. Avec son sacrifice, le Christ a effacé dans sa chair la haine qui séparait les hommes. En offrant à tous la même possibilité d'accéder au Père dans un seul esprit, il a supprimé les barrières qui les divisaient et établit la paix parmi eux. C'est pourquoi le Christ est notre paix. Lettre aux Éphésiens 2, 14. Saint Paul savait par expérience personnelle ce que signifiait cette réconciliation universelle. Avant sa conversion, il s'était montré nettement hostile à l'égard de ceux qui n'adhéraient pas au culte judaïque. Mais lorsque son cœur s'est converti au Christ, ses dispositions hostiles subirent une telle transformation qu'il finit par devenir apôtre des païens. À partir de ce moment, il n'admit plus aucun obstacle à l'universalité. Comme il avait été dans le judaïsme un persécuteur acharné des chrétiens, c'est avec la même ardeur qu'il fut par la suite, dans la propagation de la foi chrétienne, un messager au cœur immense et sans limite. Comment ne pas se rappeler ces vigoureuses paroles? Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Épître aux Galates 3, 28. Évidemment, Paul ne nie pas que des différences subsistent entre les hommes. Ce qu'il veut affirmer, c'est que ces différences ne peuvent plus être un motif de division, parce que le Christ a tout unifié dans sa personne. La position de l'apôtre reflète parfaitement la pensée de Jésus. Pour s'en convaincre, il suffit de revenir à cette page extraordinairement dense dans laquelle Jean a recueilli la prière sacerdotale du divin maître, en demandant au Père que tous soient un, comme le Père et lui sont un. Voir Évangile de Jean 17, 21 à 22, Jésus indique le modèle parfait de l'union qu'il veut établir. La réconciliation que son sacrifice doit obtenir pour l'humanité n'est pas une simple suppression des divisions existantes et le rétablissement d'un accord. Elle vise à instaurer une unité d'ordre supérieur avec la communication de l'unité de personnes humaines. La réconciliation est donc plus que la restauration de l'unité perdue. Elle élève l'accord entre les hommes au niveau d'une participation à l'accord parfait qui règne dans la communauté divine de la Sainte Trinité. Ce n'est pas sans raison que les Écritures soulignent le rôle fondamental dévolu en ceci à l'Esprit Saint. Étant donné l'amour personnel du Père et du Fils, c'est lui qui opère dans l'humanité pour réaliser une unité qui est l'unité divine pour fondement et modèle. Il n'y a pas lieu de s'étonner alors si dans son enseignement le Maître a attiré à de nombreuses reprises l'attention de ses disciples sur le pressant devoir de chercher la réconciliation partout où il y a discorde. La volonté de réconciliation est la condition inéluctable d'une prière agréable à Dieu. Il faut que celui qui va déposer son offrande sur l'autel aille tout d'abord se réconcilier avec son frère. Voir Évangile de Matthieu 5, 23 à 24. Quelle que soit l'offense commise, et même si elle se répète fréquemment, on ne peut jamais abandonner l'effort de réconciliation, car le disciple ne saurait mettre des limites à son pardon, conformément à ce que Jésus a prescrit à Pierre. Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et disant, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Évangile de Luc 6, 27. Jésus indique que la réconciliation doit se manifester immédiatement par des dispositions intimes. Même si une réconciliation effective est impossible à cause de l'attitude hostile de l'autre, le chrétien doit être animé d'un amour authentique, sincère. Il existe pour lui les devoirs de la réconciliation du cœur, une réconciliation personnelle grâce à des sentiments de bienveillance. Le Christ connaît bien les difficultés que les hommes rencontrent pour se réconcilier entre eux. Par son sacrifice rédempteur, il a obtenu pour tous la force nécessaire pour les surmonter. Aucun homme ne saurait donc s'avouer incapable de se réconcilier avec le prochain, comme nul ne peut se dire incapable de se réconcilier avec Dieu. La croix a fait tomber toutes les barrières qui ferment les uns aux autres les cœurs des hommes. On perçoit dans le monde un immense besoin de réconciliation. Les luttes investissent parfois tous les domaines de la vie individuelle, familiale, sociale, nationale, internationale. Si le Christ n'avait pas souffert pour établir l'unité de la communauté humaine, on pourrait penser que ces conflits sont irrémédiables. Mais le Sauveur pousse efficacement tous les hommes à l'union et à la réconciliation. Par le Saint-Esprit, il les réunit toujours plus dans son amour. Nous continuerons à méditer sur ces sujets encore la prochaine fois. Maintenant, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.